maintenant votre émission La Voix du Chien à trois pattes pour découvrir les jazz d'aujourd'hui. Aimez-vous le jazz?
Oh, bien sûr, oui.
Non, bien sûr que non.
Oui, j'aime certains jazz.
Des fois.
J'adore le jazz, je suis là pour ça.
Ouais, c'est pour ça que je suis là.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes sur l'émission La Voix du Chien à trois pattes et nous recevons aujourd'hui le saxophoniste Michel Fernandez. À côté de moi, nous avons Christophe de l'association Le Chien à trois pattes et Dédé est à la technique. Voilà pour les présentations. Donc, Michel Fernandez a choisi un thème qui, je crois, va nous intéresser. On va parler du jazz et des cultures du Sud. On va parler des racines africaines du jazz, de l'improvisation modale, l'influence du free jazz dans le jazz actuel. Alors Michel, vous avez longtemps joué avec John Chikai, pionnier du free et ancien compagnon de John Coltrane. Et en Afrique de l'Ouest, vous avez également joué avec Fela Kuti, excusez du peu, dans les années 80. Donc nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler un peu de tout ça. Alors John Chikai, vous l'avez connu où?
Oui, bonsoir à tout le monde. John Chikai, je l'ai rencontré au festival de Cluny début des années 80, parce que dans la région de Cluny s'était installé un contrebassiste, Didier Levalet, qui était un contrebassiste qui a beaucoup marqué par son jeu et tout ce qu'il a fait. C'était un vrai militant du jazz. Donc il y avait un festival et beaucoup de rencontres. C'était l'époque de l'improvisation, du free jazz. Et il y avait un club à l'ouest de la Grône, chez Jackie Barbier.
Je m'en souviens.
Je m'en souviens.
Oui, tout à fait. Oui.
Et moi, j'avais participé comme stagiaire, parce que John Chikai était très connu comme un monument du free jazz, parce qu'il avait joué avec Coltrane, tout ça. Et voilà, et après c'est parti, il m'a invité au Danemark, on a fait beaucoup d'expériences. Et c'était une époque où le mot free jazz n'était pas une insulte, c'était vraiment une libération, et tout le monde y prenait un grand plaisir, et le public, et les instrumentistes.
Alors voilà, le mot est lancé, free jazz. On va en reparler, je crois que c'est un sujet qui mérite d'y revenir et de voir. Donc vous avez choisi tout d'abord, pour commencer, un morceau donc du saxophoniste et chanteur Fela Kuti, que vous avez connu et avec qui vous avez également joué au Nigeria.
Donc, oui, c'est ça, c'était fin des années 80, début années 90. J'avais la chance de jouer dans les centres culturels français en Afrique de l'Ouest et faire des masters, des workshops, de la pédagogie. Et donc j'ai rencontré Fela Kuti dans ces occasions. Et quand j'ai écouté sa musique, qui était une musique qui avait modernisé les rythmes yoruba, j'étais vraiment très enthousiaste. J'avais jamais entendu ça, quoi. C'était une musique qui était gaie, qui était vivante, qui avait un message politique, parce que Fela était très engagé politiquement. Bon, d'ailleurs, il est allé souvent en prison pour cela. Et le morceau s'appelle Colonial Mentality.
On va en écouter un morceau tout de suite et on va se rendre compte de cette rupture qu'a provoqué Fela Kuti.
We'll be right back.
Et voilà, donc c'était Fela Kuti, Colonial Mentality, donc de morceau des années 80. On disait en antenne qu'ils étaient une trentaine de musiciens.
Oui, et quand ils jouaient dans des stades de foot en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, il y avait des danseuses, ouais. Beaucoup, beaucoup de danseuses. Donc, l'orchestre se retrouvait, on se retrouvait à 50 personnes sur scène, très facilement. Et c'était le délire, parce que c'est une musique qui cherche la transe, oui. Hein, qui est très tribale. Les morceaux sont très, très longs. Très très long. C'est la musique Yoruba modernisée qu'on a appelée l'Afrobeat.
L'Afrobeat qui depuis a eu ses développements.
Donc, Fela, c'est l'inventeur de l'Afrobeat.
Voilà, tout à fait, un grand personnage. Ouais. Et c'est un peu la trance. Ça fait penser aussi un peu à la funk africaine, vous disiez.
Ouais, parce que on appuie sur le premier temps dans le funk et. Dans l'afrobeat, c'est le premier temps.
C'est ça.
Tandis qu'en jazz, c'est plutôt le second temps.
D'accord.
Mais appuyer le premier temps, c'était très nouveau à l'époque.
D'accord. Ouais. C'est le saxophoniste Michel Fernandez qui parle là. Bien, ben nous allons continuer avec un autre musicien, donc Art Pepper. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, Michel.
Oui. Art Pepper, il représente le mélange entre le jazz et la culture latine en Amérique.
C'est ça.
Ah, ouais. C'est un blanc d'origine, je crois, italienne. Son père était un immigré italien. Et il a passé, tout le monde, enfin, je pense qu'il a passé beaucoup d'années en prison. Hein. Pour des histoires de cam, de dos.
Oui, à l'époque. Oui. Et, dans les années 60.
Ça, ouais, ouais, voilà. Ouais. Et dans les prisons, il voulait toujours être dans la prison avec les Noirs. Parce que les Blancs et les Noirs étaient séparés. Parce qu'il savait qu'avec les Noirs, il allait pouvoir jouer.
Oui.
Et à cette époque, il faut savoir que les musiciens qui allaient en tôle, il y en avait beaucoup. Hein. Ils continuaient à travailler leurs instruments et leur musique parce qu'il y avait des orchestres.
C'est ça.
Il y avait des orchestres et en particulier parfois des orchestres mixtes.
Et Art Pepper, si je ne dis pas de bêtises, a commencé un peu dans la West Coast en fait et dans la musique, une musique qui était plus dans, disons, une musique de blanc.
Oui.
Avant de virer vers ce mouvement qui a été un retour sur les fondements du jazz noir en fait.
Voilà, hein. Michel Louis, vous avez raison. Le West Coast, c'est Chet Baker, voilà. c'est assez cool, c'est des ballades. C'était la musique pas anti-noir contre New York, mais quand même une musique clean. Et Art Pepper, après, il en a eu un peu marre de ça, je crois. Il a fait beaucoup de bebop et de hard bop. Il avait voulu imiter Charlie Parker. Et après, il s'est tourné vers les rythmes latins. Le mambo, la rumba, le cubain. Donc, il fait un peu le passage entre la culture jazz et la culture du sud-américaine.
D'accord.
C'est ce que j'ai... Enfin, vous allez. Si on écoute le morceau, vous allez.
On va voir. Eh bien, pourquoi pas. On va l'écouter. Donc, de quel morceau vous nous proposez?
Alors, c'est Mambo Koyama.
D'accord. Eh bien, allons-y.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Calade et nous allons entendre le jingle. Eh ben non, on a...
100.9.
Eh ben voilà, quelle voix. Donc vous êtes sur Radio Calade et vous écoutez la voix du chien à trois pattes avec notre invité, le saxophoniste Michel Fernandez. Donc nous venons d'entendre Art Pepper, donc Mambo Koyama. Effectivement, c'est un jazz du sud, enfin des Caraïbes ou des latino-américains. Quoi.
Ouais. Beaucoup de calypso, de la rumba, du mambo. Bon, après, il y a eu Sonny Rollins qui a repris cette veine du Caraïbe. Ouais. Mmh. Ouais. Mais donc, c'est un peu à la fin du bop, la fin du bebop.
Voilà.
Et après le bebop, la révolution du free jazz, quoi.
Voilà, bah
c'est un peu la transition, parce que dans les solos, on entend qu'ils cherchent à aller sortir de la grille.
Sortir de la grille et de la partition, quoi. Oui. Et nous sommes dans les années, début des années 60.
Voilà.
Donc la fin du hard bop, du cool jazz, et puis on cherche d'autres choses.
Exactement. Voilà. Je pense que. C'est beaucoup de ruptures dans l'histoire du jazz. Ouais.
Alors justement, nous allons en arriver au grand John Coltrane, encore un saxophoniste, un troisième saxophoniste. D'ailleurs, j'ai noté que les trois, Fela Kuti, je ne sais pas, mais en tout cas, Art Pepper et John Chikai aussi, et Coltrane sont passés du sax alto au sax ténor.
Oui, ouais, c'est vrai ça.
Qui est votre instrument, le sax ténor d'ailleurs.
Exactement, oui. Parce que en général, on commence à apprendre le saxo sur l'alto, mais il y a des gens, enfin comme moi par exemple, on n'arrive plus pas à s'exprimer sur un alto, même si c'est les mêmes doigtés. Le ténor est plus impulsif, plus expressif.
D'accord.
Alors quand cette période-là du free jazz qui a voulu libérer les émotions, etc., le ténor était
plus adapté
pour certains. Hein, parce qu'il y a des très bons altistes.
Oui.
Art Pepper, c'est un altiste.
Oui, d'accord.
Mais après, oui, Michel, vous avez raison. Et les ténors, ils jouent aussi le soprano. Parce que c'est la même tonalité. C'est si bémol. Donc les partitions de ténor, vous pouvez les jouer sur un soprano.
D'accord. Toute la gamme des saxophones, hein, il y en a des plus ou moins gros, plus ou moins courbés.
Les gens qui jouent d'alto.
Instrument roi du jazz quand même, quelque part.
Les gens qui jouent d'alto, ils passent au baryton. Parce que c'est mi bémol, ils n'ont pas besoin de transposer.
Voilà.
Mais le souffle et les doigts sont pareils.
C'est ça,
mais ils sont
d'accord.
Complètement différents.
Donc on est dans les années 60 et nous allons tout de suite écouter, je crois, John Coltrane. Ça nous permettra d'enchaîner un petit peu sur la révolution qui va ensuite se passer dans le jazz, dont on dira un mot, le free jazz, disons. Le réveil ou le sursaut ou la renaissance de la contestation américaine, des Noirs américains et donc d'une musique qui était beaucoup plus en rupture par rapport avec tout ce qui se faisait auparavant. On y va, donc vous avez choisi quel morceau de Coltrane ?
Alors j'ai choisi Olé, c'est un morceau qui s'inspire de la musique classique espagnole, où le thème est une citation d'un morceau d'Albéniz, d'une musique espagnole. Mais Coltrane l'a appelé Olé, enfin, il l'a repris à sa sauce.
Allons-y.
Thank you.
Donc, nous venons d'écouter John Coltrane dans le morceau qui s'appelle Olé, avec deux contrebassistes. Et on a entendu une flûte également, c'est intéressant comme richesse de sonorité. Et tout de suite, avant de continuer, nous n'avons pas ce soir Jean-Bernard avec nous, mais il nous a envoyé sa chronique. Eh bien, je vous propose tout de suite de l'écouter, il est dans le ton de l'émission. Allons-y.
La naissance du free jazz est intrinsèquement et viscéralement liée au mouvement noir luttant contre la discrimination sous toutes ses formes aux États-Unis. Nous sommes dans les années 50-60. Dans ces luttes pour l'émancipation et le respect de tous, rappelons-nous ces grandes figures. Malcolm X, Martin Luther King, Angela Davis et bien d'autres. Parallèlement, il y a aussi la guerre au Vietnam. Le free jazz naît et prend racine au cœur même du désir de vivre libre et égalitairement par la réappropriation identitaire, et il s'agit d'une nécessité vitale pour les hommes et leur culture. Le free jazz, libéré des conventions et des règles musicales, explose le jazz des Blancs, remettant en cause ses structures mélodiques, rythmiques, harmoniques, s'éloignant de toute sophistication occidentale pour se rapprocher des racines africaines. Un des grands indices de cette mutation se laisse entendre dans la place centrale prise par l'expression spontanée, la place majeure à l'improvisation collective, en quelque sorte la naissance de partitions sans partition. Bien sûr, ceci ne peut qu'être servi par des musiciens chevronnés de haut talent. Les sons deviennent plus importants que les notes, dira le saxophoniste Albert Heller. On comprend dès lors que cette liberté incarnée par le son accompagne, précède, succède la quête identitaire noire. La mutation du jazz est liée à la mutation de la conscience noire, dit le critique Nathan Touffe. Leur expérimentation, création, exploration, dit leur amour pour la liberté d'être. Des noms marquant l'histoire du free jazz, tout d'abord un précurseur du jazz libre en la personne de Thelonious Monk, le pianiste et son style abrupt, puis John Coltrane, Ornette Coleman, Albert Heller, Archie Shepp et bien d'autres. L'influence du free jazz s'inscrit en Europe et il y a une certaine connivence entre les mouvements contestataires et la visite de nombreuses figures du free jazz noir américain, amenant avec eux un autre regard, des idées, un autre modèle. Mentionnons Brigitte Fontaine, François Tusk, Bernard Vital, Michel Portal en France. Le free jazz a aussi été influencé par d'autres cultures musicales, hispaniques, juives, russes et même par le système tonal remis en cause par Debussy, Bartok et Stravinsky. Je finis par ce bon mot récent de Archie Shepp lui-même. Le free jazz, c'était la musique de notre souffrance, de notre blues. Je n'avais aucune intention politique. Le but simplement de supporter la vie et de l'être humain, de favoriser l'égalité, de mettre en avant notre indépendance et notre amitié. Une dernière remarque à explorer. Le free jazz, tant dénigré, continue d'influencer le jazz d'aujourd'hui. Il est même de retour sur le devant de la scène. Phénomène qui peut questionner au regard des origines, non ?
Voilà, c'était la rubrique de Jean-Bernard qui nous l'a transmise enregistrée. Mais c'est vrai qu'il introduit ce moment clé de l'histoire du jazz, je crois, de l'explosion du free jazz qui probablement inspire, enfin, a fait partir le jazz dans tout un tas de directions et qui l'inspire encore beaucoup de musiciens.
Oui, alors comme l'a très bien dit Jean-Bernard, c'est lié au contexte politique de la révolte des Noirs américains, la guerre du Vietnam, etc. Mais musicalement, on va dire que free jazz, ça veut dire qu'on se libère des formes. Alors, qu'est-ce que c'est que les formes ? C'est les standards, c'est-à-dire des grilles d'accords qui sont normatives, que le pianiste fait défiler, que le guitariste fait défiler, et sur lesquels le soliste est obligé il est emprisonné. Nous, on dit une grille, c'est bien ça. C'est une grille comme une prison, quoi. Donc, free jazz, ça voulait dire free form. On se libère de toutes les grilles, et en particulier des grilles du bebop. Parce que Jean-Bernard dit que c'est une révolte contre la musique blanche, c'est très vrai, mais aussi une révolte à l'intérieur de la musique noire. Comme ça. Il le dit, Monk, il a commencé à le faire. C'est vrai que Monk... Ouais. Alors, moi j'ai choisi ce morceau de Coltrane parce que qu'est-ce que a apporté le free jazz ? Un élément qui est maintenant partagé par tous les musiciens de jazz actuels, c'est la musique modale. C'est-à-dire que, qu'on connaisse ou pas l'histoire du free jazz, de nos jours, tout le monde sait, enfin tous les musiciens ne jouent que modal. Ça veut dire, modal c'est un mode, c'est-à-dire quelques notes, c'est une gamme qu'on développe à l'infini, et cette gamme fait qu'on n'est plus obligé d'être dans la grille des accords.
C'est une libération des musiciens, en fait.
C'est, ouais. C'est une vraie libération, parce que la gamme, vous pouvez la triturer dans tous les sens, mettre du son. C'est vrai, Jean-Bernard cite Albert Heller, le son est très important, parce qu'on peut faire des notes qui expriment la rage, qui expriment la délicatesse, la même note, etc. Et Coltrane, c'est lui l'initiateur, avant Ornette Coleman, de la musique modale. D'où la référence à toutes les cultures africaines et espagnoles, parce que, par exemple, le flamenco, c'est que modal. C'est que du mode. La musique africaine qu'on dit pentatonique, des gammes à 5 tons, c'est que des modes. Et maintenant, tout le monde joue modal.
Voilà. Donc,
quand les gens disent ouais, le free jazz c'est n'importe quoi, tout le monde peut jouer du free jazz, il n'y a pas besoin d'apprendre à jouer. C'est faux ça. C'est un préjugé.
Ça correspond à une libération totale d'un moment donné qui a permis d'aboutir sur tout un tas de développements des jazz d'aujourd'hui en particulier.
C'est comme si à un moment donné la technique ne suffit plus. Il faut faire exploser la technique pour aller vers autre chose, un autre langage.
Ouais. Eh bien, nous allons tout de suite arriver alors à des morceaux de votre quartet, le Michel Fernandez Quartet, que vous nous proposez. Et on va tout de suite en écouter un premier, qui se nomme High Life, je crois. On présentera les musiciens après, on va déjà l'écouter. Allons-y. Calade 100.9. Vous écoutez La Voix du Chien à trois pattes avec Michel Fernandez. Vous disiez tout à l'heure que dans le free jazz, en fait, la musique n'est plus dans la partition.
Non. Pour reprendre le free jazz, non, la musique, elle est vraiment l'écoute de l'autre.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est, on libère une création collective se renouvelle à chaque instant. Quoi. On écoutait le piano, là, un très beau pianiste de votre quartet, donc
Benoît Thévenot.
Ça faisait penser que le Thelonious Monk a beaucoup inspiré les musiciens, les pianistes d'aujourd'hui, je crois, et pas que les pianistes d'ailleurs.
Oui, parce que Monk joue hors T, il cherche pas la continuité, il cherche pas à faire des jolies notes,
voilà.
Il cherche pas à faire des beaux accords, il cherche la dissonance. Et donc il cherche des trucs bizarres. Et bon, à la fin de sa vie, plus personne voulait l'écouter. Il est resté des années dans une chambre, plus joué.
Oui, oui. Mais beaucoup de pianistes d'aujourd'hui, des jeunes en particulier, s'en inspirent encore aujourd'hui. Parce que, et en fait, c'est aussi une manière d'être. D'avoir une expression beaucoup plus venant des tripes, quoi, et non pas normée, et puis une balade, quoi.
Et Monk a écrit des très beaux thèmes qui sont restés, qui sont devenus des standards. Around Midnight, et même Just a Gigolo, c'est Monk.
Ah oui, d'accord. Dans un autre style, oui, d'accord.
À l'époque, il aurait été
d'accord.
Riche.
Oui, d'accord. Bien, eh bien, écoutez, nous allons continuer avec toujours le quartet, le Michel Fernandez Quartet, donc dans un deuxième morceau que vous nous proposez, qui s'appelle Duende, je crois. Excusez-moi. Oui, c'est ça, pardon, on y est, oui. Donc on va y aller tout de suite. vous venez d'écouter donc par le Michel Fernandez Quartet. Le morceau s'appelait Duende. Donc vous écoutez La Voix du Chien à trois pattes sur Calade 100.9 avec donc Michel Fernandez, le saxophoniste en personne. Et voilà, nous allons un peu revenir. Alors vous disiez tout à l'heure que en antenne que la création aujourd'hui est une œuvre extrêmement collective. Ça me fait penser d'ailleurs que il est difficile aujourd'hui de faire des concerts. On a essayé une ou deux fois. Bon, c'était intéressant, mais de faire des bœufs avec des musiciens qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, parce qu'il y a tellement une connivence dans les morceaux d'aujourd'hui. Je crois que ça est bien illustré par ce genre de musique.
Oui, c'est très vrai, parce que avant le bœuf, on pouvait se rejoindre sur des standards et tout le monde connaissait les standards. Et maintenant, la nouvelle génération ne connaissent plus les standards. Enfin,
ou les connaissent, mais les jouent moins.
Ou les connaissent, les jouent moins. Donc, on a moins de langage en commun.
C'est ça.
Et on doit et quand on fait un bœuf, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse comme dans l'époque du free jazz, c'est que on commence à improviser librement et collectivement. Mais même là-dessus, parfois, il y a un blocage. Que moi j'ai remarqué dans les clubs. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux solutions. Soit on reprend des standards très très classiques, soit on fait de l'improvisation collective, mais on ne peut pas apporter des compositions à soi. C'est pas une répétition, quoi. Alors c'est vrai que les bofs sont très difficiles maintenant.
Oui, on a perdu cette tradition du jazz qui existait à une certaine époque. Mais en même temps, voilà.
Alors, par contre, quand on fait un blues, ça marche toujours.
Ah, voilà. Dédé va être content.
Bon blues, 12 mesures, c'est bon. Voilà. Tout le monde se retrouve là.
Ouais. Tout à fait, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ce dont on a souvent affaire dans les groupes qui viennent jouer au chien à trois pattes, c'est effectivement d'assister à une création qui a été extrêmement travaillée et qui, visiblement, ne peut se faire que par des groupes, par des ensembles de musiciens qui se connaissent extrêmement bien et qui réagissent sur la musique qu'ils ont créée, en fait.
Ah oui, ah oui, ah oui. C'est l'apport du free jazz, hein. La chose collective, le collectif. Ouais.
Et c'est vrai que le free jazz, on n'a pas entendu de morceaux aujourd'hui, là, dans l'émission, de morceaux très, très free, je dirais. Mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui a, enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, permis aujourd'hui de tout un tas de développements qu'on n'aurait jamais pu connaître dans le jazz, qui aurait été un train-train qui vivait sur ses acquis, contrairement à ce qu'on peut voir dans nos concerts, effectivement. Un dernier morceau ? Toujours le Michel Fernandez Quartet.
Alors c'est Chaudière, un morceau qui est dédié à notre batteur qui s'appelle Nicolas Serret et qu'on surnomme Chaudière parce que c'est une sorte de machine diesel qui démarre très doucement, mais une fois qu'il a démarré, c'est la grosse puissance.
Allez, un peu de gasoil, mettons en route la Chaudière.
We'll be right back.
Et voilà.
100.9.
100.9. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Et on va parler du Michel Fernandez Quartet qu'on vient d'entendre. Mais vous avez trois musiciens avec vous. Vous allez les présenter. Donc, un pianiste, un contrebassiste et un batteur.
Alors, il y a Benoît Thévenot qui joue du piano acoustique et parfois le clavier, comme on a vu sur High Life tout à l'heure,
le premier morceau. Oui.
Il y a François Galix qui est un contrebassiste assez coté,
fondateur du Crescent.
Fondateur du Crescent, du collectif Mu.
Oui.
Qui est installé en Ardèche.
Voilà, le Crescent à Mâcon, tout à fait, qu'on connaît bien.
Un merveilleux lieu. Il y a Nicolas Serret, qui est un batteur qui habite dans la Drôme. Et moi-même, Michel Fernandez.
Voilà. Alors, ces trois musiciens qui sont avec vous étaient déjà venus au Chien à trois pattes avec une chanteuse qui était à son tout début et qui se lançait dans le jazz, qui était magnifique, effectivement, Anne Silla. Alors, elle a pris d'autres voix aujourd'hui, mais voilà, on a le souvenir de cette magnifique chanteuse accompagnée remarquablement par ces trois musiciens. Alors, je rappelle donc un peu je précise la date du concert. Donc, il aura lieu le samedi 22 février à 21h au Pêle-Mêle Café à Montmerle. Vous pouvez réserver, alors je n'ai pas le numéro, si je le retrouve, au pêle-mêle éventuellement pour réserver à dîner vers 7h, 7h30 avant le concert. Un endroit magnifique et un groupe, alors vous le définissez un peu comme, bien sûr autour de vos compositions, comme un hommage aux années de feu.
Ah oui, c'est le journaliste et historien du jazz qui s'appelle Nicolas Beignès, qui avait fait un article en disant c'est un hommage aux années de feu, c'est-à-dire les années 60-70,
voilà.
Où il y avait ce qu'a dit Jean-Bernard tout à l'heure, en même temps la révolte, la contestation, et en même temps la recherche d'un autre langage pas révolutionnaire, mais révolté en tout cas.
Et qui a donné aujourd'hui la diversité, et qui probablement est une des raisons de la diversité des jazz, expression qu'on aime bien utiliser au Chien à trois pattes, les jazz d'aujourd'hui qui sont tellement riches.
Oui, et année de feu, parce qu'on cherche quand même un truc chaud dans le groupe. Hein. Dans notre musique, on cherche un peu la transe, l'hypnose.
Eh bien alors, retenez donc, le 22 février à 21h au Pêle-Mêle Café, il fera chaud. Nous arrivons à la fin de l'émission, donc il nous reste à remercier Michel Fernandez, donc on le retrouvera le 22 février avec son quartet. La présence...
Je ne manquerai pas le concert, effectivement.
Voilà. De membres du Chien. Et bien sûr, je remercie Dédé à la technique et à la prochaine fois. Merci.
Bonsoir.